lesquels on pourrait pas faire grand chose. Bon, je sais pas où je vais mettre ça, ici. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dimanche dernier, on a dû s'éclipser un peu rapidement après le culte, mais je voulais louer le Seigneur aussi pour ces moments qui ont été organisés par nos frères et sœurs des quatre assemblées. Et c'était un moment très bien organisé et vous aurez remarqué que nous étions ponctuels. Et ça c'était un premier témoignage qui m'a fait du bien. Et merci Seigneur. On va remettre ces moments au Seigneur. Père Céleste, encore merci pour toutes tes grâces. Combien il est bon de se placer sous ta protection, de trouver en toi la force, l'inspiration, l'encouragement, le renouvellement. Combien de fois nous sommes tombés, Seigneur, combien de fois tu nous as relevés, parce que nous faisons partie de toi-même, et tu ne peux pas imaginer, en tant que tête de l'Église, de laisser tomber un de tes membres, de le laisser par terre, même s'il faut s'humilier parfois quelque temps. Merci parce que tu es celui qui nous relève. Merci parce que tu as ce désir de bâtir ton Église et que même toutes les forces de l'enfer, du séjour des morts, ne prévaudront pas contre elle. Merci pour ton Église, merci pour nos frères et sœurs aussi des autres assemblées, merci pour l'Église là où elle est réunie ce matin, merci pour nos frères et sœurs peut-être qui nous regardent en ce moment sur visioconférence, merci pour la réalité de ton Église et surtout pour ta réalité à toi. Tu es là-haut, tu es sur ton trône, tu règnes, tu es en nous, tu es au milieu de nous. Alors bénis ces moments, bénis ta parole Seigneur et qu'elle agisse comme tu l'entends dans chacun de nos cœurs, dans le nom de Jésus, la parole vivante, le Verbe incarné. Amen. L'Ecclésia, vous connaissez l'Ecclésia, j'espère, parce que vous en faites partie, vous formez l'Ecclésia, une église sans cloison, vous pouvez vous amuser à le dire très vite, l'Ecclésia, une église sans cloison, ça fait un exercice de diction. Alors bonjour à tous, ce matin le Seigneur m'a mis à cœur ce texte, alors il se trouve que je ne savais pas quel texte vous présenter, j'avais un truc qui me trottait dans la tête. Puis j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me donnes le texte, parce que moi, j'ai pas du tout envie de trouver dans la Bible des choses qui correspondent à mes idées, mais j'ai envie que ce soit toi. Alors j'ai dit, Seigneur, si tu pouvais me le donner pour le lundi de la semaine précédente. Et le lundi, j'avais pas de texte. Ah, je commençais à m'inquiéter. Et Seigneur, il est bon parce qu'il me l'a donné le mardi matin. Non, j'étais en train de prier tout d'un coup. J'étais dans ce livre des Éphésiens et je tombe sur ce texte. Je suis juste arrivé à ce moment-là. Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 12. 11 petits versets qui pourront nous paraître un peu longs a priori, mais vous verrez combien... en tout cas, moi, ça me fait un bien fou. Parce que l'Église de Jésus-Christ a été parfois dénaturée et perturbée dans son histoire. Et pour rester concret, on ne parlera que de l'Église locale. Parce que l'Église universelle, moi j'ai pas de problème avec l'Église universelle. Je n'ai jamais de conflit avec l'Église universelle, je n'ai jamais de difficulté, je n'ai jamais de problème. Mais l'Église locale, c'est concret. Et vous êtes l'Ecclésia locale, et pour vous, c'est ça qui vous touche. Alors après, il y a des rencontres comme la semaine dernière où on a une vision un petit peu plus élargie, et c'est bien d'avoir cette vision élargie, de ne pas croire que nous sommes seuls sur cette planète, n'est-ce pas ? Ou que nous sommes les meilleurs dans notre humilité. Notre église locale a été perturbée durant plusieurs années par notre expropriation du quai de Lattre. Ça rappelle quelques souvenirs avec le déménagement à Saint-Albin, l'obligation de faire des trajets parfois plus longs, plus coûteux même. Je sais que certaines familles, c'était un problème pour elles de rajouter de l'essence. Alors il y en a d'autres qui étaient contents parce que ça leur faisait 15 kilomètres de moins. Tant mieux pour eux. Ensuite est venu le confinement avec l'épidémie du Covid-19 qui nous a éloignés les uns des autres, créant de nouvelles barrières. Et il y a même une expression, vous vous souvenez de cette expression, les gestes barrières. Une barrière, une cloison, c'est un peu cousin, hein. Et puis il y a la disparition quasi totale des réunions en semaine, prières collectives, études bibliques, repas fraternels, même du Vendredi Saint. Ça m'a un peu interpellé parce que je me suis dit, ça fait 40 ans qu'on a mis ce temps à part. Et cette année, ça m'a beaucoup manqué, je l'avoue. Et puis, on faisait la journée de rentrée, la journée de fin d'année, et le Covid est venu et vlan, ça a tout figé, tout bloqué, et ça a mis des barrières. Ah, fallait pas s'embrasser. Ah, fallait mettre le masque. Est apparue une nouvelle façon de vivre l'Église, alors un mot nouveau aussi, distanciel. On a beaucoup enrichi le vocabulaire du petit Robert. Et alors attention, là je veux tout de suite dire que je ne veux pas faire le procès de la visioconférence parce que ça a été un outil extraordinaire durant cette période. Et ça allait encore pour nos amis, coucou là-bas, je ne sais pas s'il y en a, parce que certains malheureusement ne peuvent pas nous rejoindre et c'est sans doute à contre-cœur, je l'espère. À cela s'ajoutent les problèmes de santé, l'âge, les contraintes familiales, professionnelles, l'éloignement géographique, l'individualisme bien sûr, qu'on connaît bien, et puis aussi les déceptions. Il y a les déçus de l'Église. Il y a même une partie de l'Église universelle qui s'appelle les sans-Église, ça veut dire les sans-Église locales. Ils ont été déçus, ils ont été blessés, ils ont été perturbés. Ils ont été peut-être un peu dénaturés dans leur relation avec l'Église. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Il y a eu des abandons et il y a eu des reculs. Et ça, on ne va pas fermer les yeux là-dessus. C'est une réalité normale de la vie d'Église locale. Toutes les Églises vivent ça, même dans l'Écriture. Jean-Marc a abandonné une équipe missionnaire. D'autres ont abandonné Paul. Paul a été même abandonné presque de tous. Et Jésus a été abandonné de tous, sans exception. Durant des siècles, l'Église de Jésus-Christ a été dénaturée ou perturbée aussi. Rappelons-nous, il y a eu des hérésies dès les premiers siècles. C'est affligeant quand on se dit, Dieu a voulu faire une création merveilleuse et le péché arrive, vlan, s'affiche tout en l'air. Dieu a voulu faire une église merveilleuse, le péché arrive, les hérésies arrivent dès les premiers siècles, et paf. Moi je ne sais pas, je dis le Seigneur, il a une foi extraordinaire. Il a une force pour le coup, une force de caractère, une détermination extraordinaire, parce que moi il y a longtemps que j'aurais jeté l'éponge, je ne sais pas vous. Mais j'aurais dit, mais attendez, vous voulez pas faire partie de ça? Bon, ok, faites votre chemin et je ferai le mien. Il y a eu les schismes, très tôt dans l'Église, l'histoire de l'Église universelle. Il y a eu les persécutions, et encore aujourd'hui, vous le savez comme moi. Il y a eu les fausses conceptions de l'Église, comme l'Église de multitude, qui est venue très vite dans l'histoire de l'Église, à partir de Constantin, où il fallait être chrétien, pour faire partie de la citoyenneté de l'Empire. Une absurdité. Et un type qui, soi-disant, avait eu une vision d'une croix, on ne sait même pas s'il s'est converti, ce gars. Mais il a perturbé l'Église avec un système dont on souffre encore aujourd'hui et qui sème la perturbation, quelque part, dans la conception de l'Église de Jésus-Christ. Bien, évidemment, il y a aussi le péché et puis il y a les crises. Toutes les églises passent par des crises et si vous tendez l'oreille un petit peu sur les églises de la région, si vous rencontrez un frère ou l'autre, il va vous raconter, il va vous dire, bah vous savez, chez nous, c'est pas si drôle que ça. Vous avez peut-être eu des fois des infos qui vous reviennent aux oreilles. Alors, dans un premier temps, ça vous console. Vous vous dites, ah, on n'est pas tout seul. On a connu des crises importantes ici dans notre église jadis. Heureusement, ça s'est un peu calmé, mais c'était dur à vivre. Et dans d'autres églises, c'est le cas aussi, c'est le combat « normal » entre guillemets de l'Église de Jésus-Christ. Alors beaucoup de cloisons et de murs se sont dressés dans l'Église universelle et les églises locales. Alors, quelle conception avons-nous de l'Ecclésia? Quelle est notre conception de l'Église? Mais je m'empresse de poser la question suivante. Quelle est la conception de l'Église du point de vue de Dieu? Une Église virtuelle ou numérique, distancielle? Une Église en présentiel, autant que possible, évidemment? Une Église dénominationnelle? Une Église générationnelle? Une Église culturelle ou ethnique? Ça peut être choquant aussi de voir que, ah ben, telle église, alors il n'y a que des Arméniens, ou il n'y a que telle culture, ou vous avez des églises, enfin, je suis peut-être moins maintenant aux États-Unis, mais jadis, si vous étiez blanc, vous ne pouviez pas entrer dans une église de noir, et si vous étiez noir, vous ne pouviez pas entrer dans une église de blanc. Et vis-à-vis de l'Ecclésia de Christ, c'est choquant. C'est terriblement choquant. Et je ne comprends même pas comment on a pu supporter ça aussi longtemps. Et nous, on est contents, mais tellement contents d'avoir diverses origines, diverses cultures. Si vous saviez, c'est merveilleux la diversité de l'Église, de l'Ecclésia, de Christ. Et ça, c'est une bénédiction. Remercions Dieu pour cette bénédiction. Est-ce que c'est une Église relationnelle? Est-ce que c'est une Église de classe? Je me souviens, ma maman, alors, bon, elle était catholique, elle n'était pas très pratiquante, mais elle habitait dans le temps à Paris, jusqu'à 35 ans, elle a vécu à Paris, et dans son quartier, il y avait deux églises. C'était dans le quartier de Vanves. Il y avait l'église des riches, et il y avait l'église des pauvres. Et ma mère, à mon connaissance, elle ne s'est pas convertie vraiment, elle a été choquée par ça. Elle a été choquée par ça. S'est dit, mais comment est-ce possible, des gens qui se disent chrétiens, de faire une église de riches et une église de pauvres? C'est terrible. Nous, on ne l'imagine même pas, parce que nous avons des conditions diverses. Une église d'intermittents, comme dans le monde du spectacle, on pourrait l'imaginer. On vient un petit moment, on se retire, on fait un truc, on fait autre chose, on passe... voilà. Ça, pourquoi pas? Une église avec des cloisons, sans cloison. Alors, quelle conception avons-nous de l'Église? Quel est notre référent? À quoi on se réfère pour dire, voilà, l'Église, qui la définit? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon association? Est-ce que c'est l'Écriture? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui définit l'Église? Alors, n'avons-nous pas besoin d'y revenir un petit peu après ces moments perturbés, entre autres ce fameux Covid-19? Alors, je vous le propose comme une réflexion. Vous avez peut-être pas envie de penser à l'église pendant les vacances, de dire, oh, pendant 9 fois on y pense, on a bien le droit à un peu de vacances. Mais bon, on peut le voir sous l'angle récréatif aussi. Et c'est pour ça que je vous ai mis une Bible à côté des transats et du parasol. Et je vous souhaite déjà de bonnes vacances. Mais n'oublions pas l'écriture pendant les vacances. Peut-être pour réfléchir, tiens, à la rentrée, quelle est ma conception de l'église? Comment j'envisage l'Église à la rentrée de septembre? Peut-être que le Seigneur va produire tout un tas de bonnes réflexions, se dire, tiens, alors ça c'est bien, ça on le garde. Ça par contre, on va l'améliorer, on va faire mieux. Et puis ça c'est nouveau, j'y avais pas pensé. Ah, on va le faire. Alors le texte du jour, Éphésiens 2, 11 à 22, nous dit d'abord, dans un premier temps, c'est pourquoi, souvenez-vous, qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance. Sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, ça change. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est votre paix, notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans le même esprit. Fantastique. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés pour édifier avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Waouh ! Voilà une des visions de Dieu, de son ecclésia, de son église. Alors la qualité de Dieu qui domine ce texte, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais en relisant, je me suis dit, ah oui, on le trouve justement un peu plus loin dans cette lettre, Éphésiens 6, verset 9, devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas les Juifs d'un côté, les Grecs de l'autre, les non-Juifs, etc. Ce qui est loin d'être notre cas trop souvent, n'est-ce pas, mes amis ? On est obligé de se l'avouer quand même. Nous ne pouvons pas nous empêcher de classer les autres par catégorie. D'ailleurs, quand on vous fait un sondage ou n'importe, alors vous êtes quoi, vous ? Vous êtes ouvrier, employé, enseignant, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes vieux, vous êtes jeune, quel âge avez-vous ? Il faut absolument mettre des cases. Nous ne pouvons pas nous empêcher de hiérarchiser les autres. Ah, oh, lui, il a une belle bagnole. Oh, moi, j'ai une toute petite voiture. Ou il a des beaux vêtements. Puis moi, j'ai des vieux trucs. Ou il a des belles chaussures de marque. Et 1 Corinthiens 12, 22, 23 nous dit bien plus. Les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Vous voyez, déjà ici, la parole de Dieu révèle notre tendance. Ils nous paraissent être les plus faibles, ou nous estimons que. Vous voyez, on a toujours un espèce de filtre. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous fier aux apparences et de faire notre propre estimation. C'est plus fort que nous, quoi. C'est naturel. Ça fait partie de notre vieille nature. Mais ça va changer. Parce que Dieu nous donne une vision de son Église, qui est différente. Notre Dieu, lui, ne fait pas de favoritisme, de considération de personnes ou d'acception de personnes, selon ce que dit vos traductions de la Bible que vous avez. Pourtant, on aurait pu le croire avant la venue de Jésus par toute l'attention qu'il portait à Israël. Jusqu'à la venue de Jésus, Dieu semble s'intéresser qu'à Israël. Et les païens, ils sont à part. Dieu ne semble pas s'intéresser aux païens. Alors, on va voir dans ce texte, donc, ces trois parties, versets 11 à 12, on va l'intituler, mais ça, c'était avant, autrefois. Versets 13 à 18, mais maintenant, et on est dedans là ce matin, et versets 19 à 22, ainsi donc, voilà ce qu'est l'Église selon Dieu, en tout cas une partie de sa conception, parce qu'il y a énormément de textes, d'allusions à l'Église telle que Dieu la voit. Quelqu'un a compté pas moins de 80 images en rapport direct ou indirect avec l'Église. C'est incroyable, non ? Nous, on en connaît quelques-unes. Alors c'est dire si notre texte de ce matin n'est qu'une approche, mais Dieu voulant, nous pencherons sur d'autres textes dans l'été, si vous êtes là. Alors voyons la première partie, versets 11 à 12, mais ça c'était avant, autrefois. Mais curieusement, on pourrait dire autrefois, il faut l'oublier. C'est le passé. On n'y revient pas. Curieusement, ce n'est pas la pensée du Seigneur, ça. Dieu nous dit deux fois, vous l'aurez remarqué, souvenez-vous. Et ça me fait penser à quelqu'un qui disait, tu sais, tu ne dois jamais oublier d'où tu viens. Que ce soit sur le plan économique, sur le plan familial, sur le plan de toutes sortes. Et c'est vrai aussi sur le plan spirituel, tu ne dois pas oublier d'où tu viens parce que si tu commences à voir le melon, alors tu vas toujours considérer les païens comme des parias, comme des pécheurs, comme des mécréants. Mais en nous souvenant de notre ancienne condition, ça va nous aider à nous dire nous sommes comme eux, nous étions comme eux et nous sommes encore comme eux à certains moments dans notre vieille nature. Vous étiez identifiés, on pourrait dire étiquetés comme des non-juifs, des païens, des mécréants. C'est comme si on avait une... Alors, vous avez connu l'histoire de l'étoile jaune, mais c'est un peu pareil. On avait, nous, un truc, c'était marqué païen. Bon, c'était pas là, c'était dans le corps. Hein. C'était malheureusement les hommes qui avaient cette, cette différence. Mais bon, on était appelé incirconcis, traité d'incirconcis dans certaines traductions. Et n'oublions pas que à la Pentecôte, l'Église était juive. On oublie ça. C'était que des juifs venus d'un peu partout qui étaient rassemblés ce jour-là et qui ont été témoins de la descente du Saint-Esprit. Et combien ça a été difficile pour Dieu, même s'il peut tout, de changer la mentalité de l'époque, en particulier chez l'apôtre Pierre, quand il est appelé chez Corneille. Il a fallu une vision. Il a fallu que Corneille déplace des gens pour aller le chercher. Enfin, ça a été quelque chose. Il y avait une mentalité qui était tellement incarnée, tellement enfoncée, que quand la Pentecôte a eu lieu, on n'a pas imaginé une seconde qu'on allait s'ouvrir aux autres non-juifs. Vous étiez sans Messie, sans Christ, sans Sauveur, sans Maître. Vous imaginez ce matin être sans Christ? Mais c'est inimaginable. Enfin, j'espère. C'est inimaginable ce matin que vous soyez sans Dieu, sans Christ. Vous étiez exclu du droit de cité en Israël. On y reviendra tout à l'heure dans cette notion de droit de cité. Nous étions en quelque sorte des gens de seconde zone, des sans-droit. Et nous avions sans doute, enfin, on ne le ressentait pas forcément, mais certains certainement le ressentaient un peu comme des personnes de quartier un petit peu considérées comme des quartiers méprisables ou vus comme un peu spéciaux, faut pas trop aller là-bas. Et pourtant, plus j'y réfléchis, plus je me dis combien nos quartiers difficiles auraient besoin d'évangélistes, de témoignages chrétiens, pour changer de mentalité, pour basculer vers l'Ecclésia et trouver tout ce que Dieu a pour eux. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse, nous étions séparés de Dieu. L'alliance, pour nous, c'est un peu virtuel peut-être, mais faire alliance avec Dieu, vous vous rendez compte que ça représente? C'est indestructible. Vous êtes allié de quelqu'un qui est fort pour le coup. Vous êtes du côté du plus fort et vous avez fait alliance avec lui. Vous imaginez qu'il va vous laisser tomber quand vous serez dans la difficulté? Regardez ce que font les hommes. En principe, quand un pays est en difficulté, on essaie au moins de venir l'aider en lui apportant ce dont il a besoin. Je ne citerai pas d'exemple, mais vous savez à quoi je fais allusion. Nous étions sans espérance, sans rien attendre de l'avenir, sans perspective. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui sont comme ça, qui sont sans perspective, sans espérance, sans la foi, sans avenir. Pourquoi tant de suicides dans notre société? Pourquoi? Regardez ces agriculteurs tous les deux jours qui, c'est qu'ils n'ont plus de perspective. Prions pour l'évangélisation des agriculteurs, mes amis. On les a peut-être oubliés et c'est eux qui vous remplissent votre assiette. Moi, ça m'interpelle, et tant mieux, cette perdition. Parce qu'à travers tout ça, c'est la perdition qu'on voit. C'est la perdition des âmes qui ont besoin de nous et de Dieu surtout. Et nous étions sans Dieu, littéralement, nous étions athées, séparés de Dieu malgré nos croyances et nos religions illusoires. Et aujourd'hui, que de religions illusoires, que de salut illusoire, que d'avenir illusoire. Je ne parlerai pas de la réincarnation et de tout le reste que je connais un peu à travers la famille, mais aussi des illusions religieuses tout autres. Et nous étions sans Dieu dans le monde. Et on voit bien qu'on n'est pas fait, nous, pour vivre dans le monde, même si nous sommes appelés à aller dans le monde. Surtout ne pas nous couper du monde, ce qui serait un peu notre tendance. Mais c'est quand même un système corrompu, gouverné par Satan. Et quand on regarde les actualités à la télévision, on voit cette corruption. Encore hier soir, on parlait de notaires corrompus, de gens qui faisaient des prêts, qui étaient corrompus, qui ont ruiné d'autres. Et cette corruption, elle pourrit la société. Et cette société, elle a besoin de l'évangile. Elle a besoin de la vérité. Elle a besoin de changer. Et moi, ça me stimule, quelque part, à faire quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et de ne jamais oublier d'où je viens. Que Dieu nous aide dans ce sens, parce qu'on a tellement vite l'habitude de s'habituer à un confort, n'est-ce pas? Quand on a faim, quand on a mangé, on ne se rappelle plus quand on avait faim, n'est-ce pas? Mais ça, c'était avant, un mur de séparation. Et pourtant, il ne faut jamais oublier. Souvenez-vous d'où vous êtes venu. Le mur de séparation dans le temple de Jérusalem était une figure de cette séparation. Et on vous indique ici le mur qui entourait l'espace réservé aux Hébreux, l'enceinte intérieure. Et malgré ce premier mur, et vous risquiez votre vie si vous franchissiez ce mur, par curiosité ou intérêt spirituel, vous n'aviez pas accès au sacrifice. Et en plus de ça, il y avait d'autres cloisons. Il y avait le parvis des païens, justement. Ils avaient quand même le droit de venir là, mais c'était encore plus cruel, parce que ils seraient restés en dehors, bon. Mais là, ils étaient déjà dans une enceinte mise à part par Dieu, et ils étaient privés d'entrer. Et en plus, vous aviez encore la cloison des hommes, le parvis des hommes et le parvis des femmes. Alors, petit clin d'œil en passant, mais vous avez aujourd'hui, malheureusement, des églises évangéliques qui mettent les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Alors je serais content de savoir sur quoi ils se basent. Est-ce que c'est un phénomène culturel, une précaution morale ou je ne sais pas quoi? Ou est-ce qu'il y a un texte biblique qui dit ça? En tout cas, on voit bien où on va là. On va vers le décloisonnement, n'est-ce pas? Cette cloison, elle va être abattue par Christ. Le temple était cloisonné. Deuxième partie de notre texte, versets 13 à 18, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, tout a changé. Tout a changé. Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous êtes devenus des proches. Non seulement des proches de Dieu, mais des proches des autres. Non seulement des proches des frères en Christ, mais aussi vous pouvez vous approcher des non-juifs, enfin des non-chrétiens, des non-croyants. Dieu ne veut surtout pas il veut pas qu'on fasse partie du monde, du système, mais il veut surtout pas qu'on se marginalise et qu'on ait plus de relations avec les païens. Je pense à un beau-frère, c'est pas toujours facile d'être beau-frère. Il faut être accepté par la famille. On est en quelque sorte adopté, et nous avons été aussi adoptés. La proximité entre ses membres devrait être la première qualité de l'Église locale, à travers cette conception de Dieu, de faire des proches. la proximité. En effet, il, Christ, est notre paix, lui qui des deux groupes, juifs et païens, n'en a fait qu'un, et qui a renversé, et le mot est faible, parce que quand on renverse quelque chose, on peut le remettre sur pied. Littéralement, il a détruit. Ça veut dire que s'il l'avait renversé, bon, on pourrait le remettre de temps en temps, mais le fait de l'avoir détruit, ça demande plus d'efforts de le reconstruire, n'est-ce pas ? Si jamais on arrive à ça. Il a voulu détruire le mur qui les séparait, la haine. Et l'unité qu'il veut dans son Église est la deuxième qualité de l'Église locale. Paul dira aux Corinthiens de ne pas avoir la division entre eux, mais d'être parfaitement unis dans le même état d'esprit, dans la même pensée, et j'oserais dire, pour actualiser les choses, dans le même projet. Je pense à l'Assemblée nationale, c'est typique. Regardez ce qui se passe en politique. Nous sommes arrivés à un point où notre président, il n'a pas de majorité absolue, une majorité relative, donc difficile de mener à bien son projet. Et maintenant, on se retrouve devant les nouveaux membres de l'Assemblée nationale et il y a deux options. Il y a deux options, soit c'est le cloisonnement ou les clivages, c'est un mot aussi qu'on utilise beaucoup, et chacun se bagarre pour lui-même, même si un texte est voté par un autre parti et que c'est un bon texte, mais parce que c'est l'autre parti, je vais voter non. Je ne vais pas dire le mot parce qu'il est grossier, mais c'est de la bêtise, quoi. Hein ? Ou alors, il y a l'autre façon d'aborder la chose, c'est de compter, de penser à l'intérêt national et de dire, bah, même si c'est un autre parti, s'il propose quelque chose de bien, je dis oui. Voyez ? Et là, même en politique, on est face à ce cloisonnement, à ce problème de clivage. Et on voit bien que c'est le diable qui règne dans ce monde en clivant les gens comme ça. On parle même des esthétiques qui sont clivantes au niveau automobile, par exemple. Une voiture, vous avez une voiture dont l'esthétique est clivante, c'est-à-dire elle n'est pas comme les autres. Elle vous met dans un casier spécial, voyez, vous n'avez même pas le droit d'être original. Alors ce mur, littéralement, qui est mitoyen, donc c'est même pas un océan, c'est pas un grand fleuve qui sépare, c'est un mur, c'est tout. Ce mur mitoyen de séparation, il a un nom plus dur que la pierre, c'est la haine, l'inimitié. Et comme Dieu a dit deux fois, souvenez-vous, Dieu nous met le doigt deux fois sur ce mot. C'est la haine, l'inimitié. Nous aurions tendance à établir un nuancier au niveau de l'amour. Vous savez, quand on était petit, on prenait une marguerite et on faisait « je t'aime » un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Et on faisait le tour de la marguerite comme ça. Et on a ça un petit peu dans la tête. Et on prend l'amour de Dieu et on y fait des nuances. Ouais, je l'aime sur une échelle de 1 à 10, 8, allez. Lui, 6. Puis lui, alors, 3. Mais c'est pas comme ça que Dieu raisonne. Dieu ne raisonne pas du tout comme ça. On aime ou on n'aime pas. Et croyez-moi, ce passage-là, il m'a vraiment bousculé. Ou j'aime ou j'aime pas. Si je n'aime pas, je hais, comme dirait Monsieur de la Palisse. J'ai de l'inimitié, donc je rétablis le mur que Jésus a détruit. Nous, on se donne des libertés, évidemment, on se donne un nuancier d'amour, mais c'est pas comme ça dans la pensée de Dieu. Si je suis indifférent à quelqu'un, si je suis distant, si je suis froid, si j'évite volontairement l'autre, eh bien, mes amis, c'est de la haine. Moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé et ça m'a remué. Ça m'a remué parce que on se rend compte que, en tant qu'être humain, on a des comportements qui sont effectivement pleinement charnels et qui ne sont pas inspirés par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il nous invite à nous rapprocher, à nous aimer, à ne pas être indifférent, etc. Prenez l'apôtre Pierre. On a dit tout à l'heure que Jésus a été abandonné de ses disciples, on est d'accord? Par trois fois, Jésus lui demande « M'aimes-tu ? » Pourquoi ? Alors, Pierre, il prend pas la marguerite, mais il dit « Ah, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. » Alors, échelle 1 à 10, oh, quoi, 7 ? Mais Jésus veut 10 sur 10 de notre amour. Alors, comme il n'a pas compris, il lui répète une deuxième fois, « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre, il est embêté, mais Jésus pourrait nous poser la même question, « M'aimes-tu ? » Et l'un de vous pourrait me poser la même question, « M'aimes-tu ? » M'aimes-tu ? Alors pourquoi tu m'évites ? Si tu m'aimes, pourquoi tu viens pas spontanément ? Voilà des... Et c'est vrai avec des collègues de travail, c'est vrai avec beaucoup de personnes. Jésus a voulu faire du neuf par son esprit, en créant l'Église. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, à partir des deux, établissant ainsi la paix, un homme neuf, un peuple neuf, sans cloison dans la tête. Parce que les cloisons, elles sont dans la tête. Mais quand elles sont en moellon ou en brique, ça n'aide pas non plus. Hein. Galates 3, verset 28-29 nous dit clairement, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Vous qui étiez privés des promesses de Dieu, vous devenez de la descendance d'Abraham. Imaginez que vous rencontriez un juif qui ne connaît pas Jésus. Vous ne devriez pas avoir de complexe. Ça vous est peut-être pas arrivé, moi non plus. Il n'y en a peut-être pas beaucoup dans cette ville. Il y en a, je sais, mais ils sont très discrets. Mais se dire que ce juif-là, qui est peut-être circoncis, s'il fait partie des élus, s'il a la foi d'Abraham, mais il n'y a pas de mur entre nous. Il peut venir à Christ. Nous ne devons pas en douter s'il fait partie des élus de Dieu. Alors il n'y a plus de parvis des païens, il n'y a plus de parvis des hommes, il n'y a plus de parvis des femmes, nous sommes un en Jésus-Christ, il n'y a plus de mur de séparation. Et verset 16, il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Ça c'est une des images les plus connues de l'Église, l'image du corps. Et on en verra quelques autres. Avez-vous déjà essayé de réconcilier deux personnes ou de vous réconcilier avec quelqu'un et que ces personnes ne le veulent pas ? Par simple refus ou par justification ? Non, c'est toi qui as tort, moi j'ai raison. Moi ça m'est arrivé au moins trois fois ça. Une fois avec une collègue de travail, elle m'en voulait, je ne savais pas pourquoi. Et je suis allé la trouver au vestiaire et je lui ai dit, écoute, tu ne crois pas que nous devrions parler tous les deux ? Non, 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 la partie. Je suis rentré dans mon bureau, j'ai fondu en larmes, j'étais cassé. J'ai dit, mais est-ce possible ? Et en plus, je ne sais même pas pourquoi. Il y a des gens comme ça. En plus, nous avions été très amis ensemble. Au tout début que je travaillais, on rigolait tout le temps, c'était très tout. Bon. Et devenir comme ça sans raison, bon. Je vous raconterai pas la suite parce qu'il y en a qui ont émis des hypothèses auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Un jour, je dis à une collègue, je dis, mais je sais pas ce qu'elle avait. J'ai essayé, mais j'ai pas pu résoudre ce problème et je ne sais pas ce que je lui ai fait. Elle me répond. Et pourtant, une personne, alors, qui est pas du tout médisante, rien du tout, hein, qui, on pourrait dire, à l'âme pure, elle m'a dit, ah, mais c'est peut-être pas ce que tu lui as fait que, pour qu'elle t'en veuille, c'est peut-être ce que tu lui as pas fait. Bon. Voilà. Mais c'est terrible de, quand vous voulez même réconcilier des personnes de votre famille, vous essayez de ramener les morceaux, et que ni l'un ni l'autre ne veut, c'est terrible. Et même chez les chrétiens, ça, mais j'ai eu un cas comme ça, oui, où c'était impossible, et c'est triste, surtout chez les chrétiens, parce que nous, on a quelqu'un qui prêche la réconciliation, notre Seigneur Jésus. Alors c'est un mur qui se reconstruit alors là où Jésus l'avait détruit. Donc vous voyez, Jésus a détruit le mur de séparation, mais on peut très bien le reconstruire. Alors la troisième qualité de l'Église, c'est effectivement la faculté de se réconcilier, de pardonner, en somme d'aimer. C'est un bien grand mot, hein? Et dernière partie, ainsi donc, voilà ce qu'est l'Église selon Dieu, versets 19 à 22. En tout cas une partie de sa conception. Nous sommes d'abord une même patrie céleste. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, littéralement des émigrés. Vous êtes au contraire concitoyens des saints. Vous avez les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. On oublie souvent ça, même dans le monde citoyen ordinaire. Ah, les droits, ça, on descend dans la rue pour les droits. Mais quand il s'agit d'exercer ses devoirs, alors là, il n'y a plus personne. Et même nous, chrétiens, on a besoin de se rappeler ça, parce que l'Église, elle nous apporte des choses. Mais il ne faut jamais oublier que nous aussi, nous sommes appelés à apporter des choses aux autres. Et il y a cette réciprocité de l'amour. J'ai pensé à cette question, peut-être vous y avez pensé avant moi. Pourquoi le Seigneur dit « je vous donne un commandement nouveau » ? Qu'a-t-il de nouveau par rapport au commandement de l'Ancien Testament ? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, de tout ton esprit, etc. Et ton prochain comme toi-même. Mais je vous donne un commandement nouveau. Qu'y a-t-il de nouveau ? Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas en sens unique. C'est toujours en double sens. Et parfois dans l'Église, dans une habitude de consumérisme spirituel, on attend des autres. Mais on n'est pas prêt à donner aux autres. Et Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. N'attendez pas que l'autre vous aime, aimez-le. Réciprocité. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est tellement important dans notre société individualiste où on attend souvent des autres. Nous sommes une même patrie céleste et nous sommes un corps avec des échanges permanents. C'est intéressant cette image. Le corps humain, il y a plein d'échanges. Il y a des flux sanguins, il y a des flux électriques. Et ma fille me disait l'autre jour un truc super étrange. Vous savez qu'elle travaille en psychiatrie. Elle dit, si tu donnes un morceau de papier, un crayon, un schizophrène, enfin dans bien des cas, tu lui demandes de se dessiner. Eh bien, il ne va jamais dessiner son corps tel qu'il est. Il va mettre une jambe d'un côté, un bras de l'autre. Dans sa tête, il n'a pas cette conscience de l'individu dans sa totalité. Alors, il ne s'agit pas qu'on devienne schizophrène, mes amis. Hein ? Parce que, vous voyez, la vision de Dieu, elle n'est pas schizophrène du tout. Hein ? Elle casse le mur de séparation et elle fait un corps. Nous sommes aussi une même famille. Il est question des membres de la famille. Nous sommes membres de la famille de Dieu ou gens de la maison de Dieu. Alors, dans une famille, en principe, il y a aussi parfois des querelles, mais en principe, on aime se rencontrer. On aime manger ensemble, on aime prier ensemble, on aime adorer ensemble, travailler ensemble. On y trouve chaleur, sympathie, compréhension, encouragement. C'est ça l'Ecclésia. En tout cas, c'est ce qu'elle doit devenir ou persévérer à devenir. Que de familles malheureuses quand le père est absent, distant, froid ou démissionnaire. Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. En tout temps et en tout lieu, nous pouvons avoir recours à lui. J'aime bien cette image de la table familiale. Alors, il y en a qui vont dire « le patriarcat ». Non, c'est notre Père Céleste qui est au bout de la table. Et qu'est-ce qu'il aime avoir ses enfants autour de la table, qui mangent ensemble, qui se lavent les pieds, qui prennent la scène ensemble. Et c'est pas simplement un petit symbole qu'on fait assez vite. Mais j'aime penser à ça quand je pense à l'Ecclésia et au repas fraternel. Dieu est au bout Et s'il y a un trou, il va dire, tiens, il manque un tel, il manque un tel. C'est pas normal. C'est pas normal. Un édifice formé de pierres vivantes, vous savez ça. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors là, par rapport à ce qui a perturbé l'Église dans les siècles, j'ai parlé du multitudinisme, mais il y a aussi une idée selon laquelle c'est l'apôtre Pierre qui serait la pierre sur laquelle l'Église est fondée. Pas du tout. Le texte ici est très clair. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est Jésus-Christ qui donne la direction, c'est Jésus-Christ qui est à l'angle de ce fondement. Et ce n'est pas un homme. Et la preuve, c'est que le mot apôtre est au pluriel, vous aurez remarqué. Donc, c'est pas Pierre tout seul. Donc ça, c'est clair pour moi. C'est une construction aux dimensions imposantes, en principe un édifice. C'est quelque chose qui est bien fondé, bien coordonné, ajusté, nous dit le texte, et qui s'élève, c'est-à-dire qui grandit. C'est quelque chose de solide. Il y a de l'ordre, mais il y a aussi de la souplesse. Les pierres sont ajustées. Il y a aussi l'idée de progrès dans le sens où ça grandit. Alors, j'ai trouvé deux petites citations de notre frère Tom Julien qui me paraissent intéressantes. Il a écrit aux éditions Clés, sans faire de pub, un petit commentaire sur les Éphésiens. Et il dit ceci, « Si des lézardes apparaissent sur les murs spirituels de votre assemblée, inspectez d'abord les fondations, tout le reste trouvera facilement sa solution. C'est une invitation à revenir à la conception de Dieu, de l'Église. Avant d'être une structure, dit-il, l'Église est essentiellement une relation. Un groupe de croyants se rencontrant à jour fixe ne constitue pas plus une église qu'un tas de pierres ne fait un mur. » C'est Tom qui le dit. Hein. Une communauté ne naît pas de décision de s'assembler chaque dimanche, de rédiger une confession de foi ou d'observer telle ou telle pratique. Une église devient une église le jour où tous les membres s'engagent les uns envers les autres. C'est ce qu'il faut retenir. De sorte que la communauté entière, cimentée par l'Esprit Saint, en une entité spirituelle, est Jésus-Christ comme pierre angulaire. C'est un engagement mutuel et non à sens unique. On revient à la réciprocité. Et puis pour finir, versets 21 à 22, les deux buts de cette construction, c'est important de le dire, verset 21, c'est en lui Christ que tout l'édifice bien coordonné, ajusté, s'élève, grandit sans cesse pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui Christ par vous que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Donc ici vous avez deux buts. Premier but, c'est un temple saint dans le Seigneur. L'Église n'est pas une institution humaine, elle n'est pas une organisation ecclésiastique, une administration, une dénomination, une association comme les autres, mais un temple saint. On pourrait dire, j'aime bien le mot sanctuaire. Le sanctuaire, c'est vraiment l'endroit, quand vous entrez, c'est un endroit où on fait pas n'importe quoi et on a une attitude particulière. J'imagine les Juifs, quand ils entraient dans le temple, imaginez ce temple très très haut, c'était même disproportionné par rapport à la largeur, c'est très plus haut que large. Et ça devait être impressionnant de voir cet endroit mis à part pour Dieu. Qu'est-ce qui caractérise un sanctuaire consacré à Dieu, évidemment, c'est la sainteté, la crainte respectueuse, tout le contraire du péché, du désordre, de la désinvolture. La sanctification est-elle notre préoccupation et notre but? Vous pourrez relire cette semaine ces deux versets de Corinthiens 7.1 et 1 Thessaloniciens 4.3 qui montrent que ça fait partie du plan de Dieu aussi et que nous ne devons pas le négliger pour construire l'Église de Jésus-Christ avec lui. Et le deuxième but, c'est former une habitation de Dieu en esprit, ou plus exactement par l'esprit, une demeure où Dieu habite réellement, où le Saint-Esprit travaille les cœurs, où même un incroyant, et ça c'est Paul qui cite cela dans 1 Corinthiens 14, 25, un incroyant convaincu de péché à l'écoute de la parole de Dieu, les secrets de son cœur dévoilés pourraient tomber le visage contre terre, pour adorer Dieu et dire que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous imaginez cette scène, ici, un non-croyant, il arrive pour la première fois, il entend la parole de Dieu, et il est saisi par l'Esprit Saint, il est convaincu de péché, il se prosterne parce qu'il devient tout à coup conscient qu'il n'est pas dans un local d'association, il est dans un sanctuaire. Et que nous formons ce sanctuaire en tant que frères et sœurs en Christ, et il se prosterne. Et nous, on est assis sur notre chaise, et vous imaginez ce non-croyant, il se prosterne. Et nous, on l'a jamais fait de notre vie, ça. Enfin, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ensemble, on s'est jamais prosterné à ce point. Mais il est conscient de la présence de Dieu dans ce sanctuaire, dans ce lieu mis à part pour lui, sachant que c'est nous le temple du Saint-Esprit. Hein. Alors, d'où l'importance du soin porté à notre communion personnelle avec l'Esprit de Dieu, puisque chaque chrétien né de nouveau est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pourtant pas l'Église à lui seul, ni autosuffisant. Vous savez, par rapport à l'Église virtuelle numérique, il y a une grande mode aujourd'hui, c'est de se dire, je vais sur Internet, je vais sur YouTube, j'assiste à un culte en direct et je fais partie de l'Église. C'est pas suffisant. L'Église est un rassemblement aussi local, bien sûr universel, mais aussi local. Dieu est concret. Dieu ne veut pas nous laisser dans la virtualité, dans le simple numérique, même si de temps en temps c'est nécessaire et que ça nous fait beaucoup de bien. On a vu ça pendant le Covid. Hein. Définition de l'Ecclésia, difficile à donner. Une origine laïque du mot, vous saviez ça? C'est incroyable, aujourd'hui on sépare le laïc, hein, on sépare l'Église de l'État. Le mot « ecclésia » est d'origine laïque, c'est une expression grecque qui voulait dire une minorité était l'assemblée régulièrement convoquée par un héros, ce fameux héros AUT qui est le proclamant, on a vu ça il y a un mois pour l'Évangile, donc régulièrement convoquée par un héros, de tous les citoyens de la ville ayant un droit de cité pour traiter les questions, on va dire, municipales, juridiques, militaires. Et vous trouvez cette expression en acte 19-39 dans la fameuse manif de Démétrius où le secrétaire dit « Si vous avez des doléances, nous on va être accusés de sédition si on continue comme ça. » Donc il y a des séances, il y a des assemblées, portez vos doléances devant l'assemblée légale. Et c'est exactement l'Ecclésia. C'est incroyable. Comme Dieu, il a de l'humour, quoi. Ecclésia, appelé hors d'eux, vous savez ça, ekkaleo, hors du système monde. Appelé hors du système monde. Ce qui suppose évidemment un appel, une proclamation hors de l'Église. Si on voulait donner une définition, mais là, elle n'est sûrement pas parfaite non plus, c'est le rassemblement des élus appelés par Dieu, corps de Christ et communion des saints, régénérés par l'Esprit, en raison de leur foi pour adorer Dieu, s'édifier mutuellement et répandre la parole de Dieu dans le monde entier, dans le monde païen. Si l'Église doit être sans cloison ni clivage, un seul mur persiste à jamais, mais reste franchissable encore pour peu de temps, le mur entre les sauvés et les perdus. Ça, c'est un mur qui ne disparaîtra jamais. Mais pour l'instant, il y a une porte, il y a possibilité d'appeler hors d'eux. Elle reste franchissable. Et c'est évidemment le mur entre les gens du dehors et l'Église. Alors, conclusion, quelle est finalement notre conception de l'Ecclésia? Si Christ a détruit le mur de séparation, ce n'est pas pour que nous en dressions de nouveau. Il est venu nous rapprocher, unifier, pacifier, réconcilier, réunir, édifier, annoncer et sanctifier. Voilà son objectif à travers l'Ecclésia. Et c'est quelle démarche positive, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mur. Si les déçus de l'Église ne se sentent plus concernés par l'Église, que devient l'Église? Une brebis isolée, vous savez qu'elle est en danger. Jérémie nous a rappelé ça l'autre jour. Si l'Église rechigne à se déplacer pour venir au culte, manger ensemble, prier ensemble, étudier ensemble, que devient l'Église? Un réseau, mais pas un rassemblement. Si des personnes en conflit ne se réconcilient pas, que devient l'Église sans pardon? Si l'Église ne proclame plus l'Évangile de repentance et de grâce dans le monde, que va devenir l'Église si elle se replie sur elle-même et chacun chez soi? Dieu ne permet la dispersion de l'Église que pour semer l'Évangile partout. On a un exemple dans Acte 8, vous savez, après la persécution, ils se sont tous dispersés pour annoncer l'Évangile, mais aussitôt après, ils se rassemblaient ensemble. Sinon, elles se rassemblent pour adorer, s'édifier et grandir sans cesse. Alors,